C'est Isabelle Rebel qui vous parle. Nous continuons notre série « Prier à partir des Écritures » par la méditation et la contemplation chrétienne dans la tradition ignatienne. Cette série est l'adaptation française des entretiens en anglais sur le sujet du père Timothy Gallagher, entretien qu'on peut retrouver sur le site www.discerninghearts.com. Reprenons notre conversation sur la méditation et la contemplation, ces deux méthodes que saint Ignace de Loyola nous donne comme guide pour prier à partir de la parole de Dieu. Dans le dernier épisode, nous avons exploré le conseil de saint Ignace pour bien vivre le tout début de notre temps de prière. Nous avons maintenant tous les outils pour commencer à expérimenter ces modes de relation avec notre Seigneur. Alors, disons que j'ai décidé de réserver 20 minutes par jour, ou 30 minutes peut-être. Enfin, le temps qui me semble idéal, là où j'en suis dans ma vie spirituelle. Je suis déterminée à mettre de côté mes activités et à entrer en prière dans ma chambre, dans mon coin réservé à la maison, à l'église, où que soit l'endroit où j'aime prier. Et je traverse le seuil pour entrer dans mon espace physique et spirituel de prière en faisant comme saint Ignace m'y invite. Pendant le temps qu'il faut pour dire à notre Père, j'élève mon esprit vers le Seigneur en considérant comment il me regarde, en considérant l'amour qu'il y a pour moi dans ses yeux. Et après, qu'est-ce que je fais? Disons que je veux prier avec le passage dans Luc chapitre 5 de la pêche miraculeuse avec Pierre. C'est peut-être la lecture du jour à la messe, ou tout simplement c'est l'évangile avec lequel j'ai envie de prier aujourd'hui. La première chose dont j'ai besoin, en commençant, dit saint Ignace, c'est d'avoir cette parole fraîche dans mon esprit. Donc, avant de commencer ma méditation ou ma contemplation, il est utile, dit saint Ignace, de réviser l'ensemble du texte. La plupart des gens font ça simplement en lisant, avec beaucoup d'attention, en silence, le texte, les 11 versets, dans notre exemple particulier. Après avoir fait cela, non seulement je suis conscient d'être en présence de quelqu'un qui m'aime, mais en plus, ces paroles sont bien présentes à mon esprit, disponibles, juste là dans ma conscience. C'est la première étape préparatoire et son utilité est assez évidente. Il se peut quelquefois que le texte soit déjà tout frais dans mon esprit, pour une raison quelconque, quand c'est le moment de commencer. Et dans ce cas, je peux ne pas avoir besoin de le lire avant de plonger dans ma prière. Si mon cœur est prêt à prier, pas besoin de continuer à me préparer. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'entrer dans la prière. Mais la plupart d'entre nous trouvent que le cœur glisse plus fructueusement dans la méditation ou la contemplation, si nous prenons le temps de réviser le passage en le relisant silencieusement. Saint Ignace nous invite ensuite, en utilisant ses propres mots, à nous mêler à la scène de l'Évangile. C'est une manière de préparer le terrain en pénétrant en imagination dans la scène. Donc, par exemple, si je continue avec le passage de la pêche miraculeuse, après la lecture du texte, saint Ignace m'invite à prendre un bref instant pour me mettre dans la scène, pour m'introduire dans le film qui joue devant mes yeux. Je suis là, je vois le lac, la foule qui se presse pour entendre les paroles de Jésus. Jésus, debout au bord du lac, quasiment poussé dans l'eau par la foule qui avance vers lui. Il est tôt le matin, nous le savons d'après le texte. Le soleil brille, la foule est là. Un peu plus loin, des pêcheurs à côté de leur bateau sont en train de laver leurs filets. Je me glisse dans la scène en imagination et je me retrouve là. On sent bien comment cette étape aide à préparer le cœur à la prière, en mettant à contribution une autre partie de mon humanité, mon imagination. Ou, si je veux prier à partir des béatitudes du Sermon sur la montagne, je pourrais, après avoir relu le passage, prendre un bref moment pour me mettre dans la scène. Je suis sur la colline dans ce paysage de Terre Sainte. Je vois Jésus assis, je vois l'immense foule dont nous parle l'Évangile, qui le suit parce qu'il les a guéris, parce qu'il les instruit, et qui a une grande faim d'entendre ses paroles. Je pourrais moi-même m'asseoir quelque part assez proche de Jésus pour l'écouter. Vous voyez comment cette manière de se placer dans la scène aide vraiment à nous engager plus complètement dans la prière, et va la faciliter parce que nous sommes déjà là. Je voudrais vous lire une description de la manière de prier avec les Écritures de sainte Jeanne-Françoise de Chantal. Elle vivait au XVIIe siècle. Elle avait 4 jeunes enfants quand son mari mourut dans un accident de chasse. Pendant cette période de veuvage difficile, elle rencontra saint François de Sales, qui devint son directeur spirituel et avec qui elle développa une amitié spirituelle féconde. Cette description nous dit comment elle priait dans ces années difficiles, alors qu'elle prenait soin de ses jeunes enfants. Elle lisait un passage de l'Évangile avec grande attention. On retrouve cette étape préparatoire que nous venons de voir. Ensuite, elle imaginait la scène, encore une fois comme le suggère saint Ignace. Et ce n'est pas vraiment surprenant parce que son guide spirituel, saint François de Sales, avait fait les exercices spirituels et avait beaucoup appris de l'enseignement de saint Ignace sur la prière. Et cette journée-là, dont nous avons la description, elle priait à partir du chapitre 8 dans Matthieu, les versets 5 à 13 où le centurion s'approche de Jésus et le supplie de guérir son serviteur resté à la maison, qui souffre terriblement. Il y a une foule qui suit Jésus. Il vient juste d'arriver dans la petite ville de Capharnaüm et la foule est avec lui. Le centurion s'avance et fait cette prière angoissée du fond du cœur pour la guérison de son serviteur. Jésus dit « Je vais aller le guérir ». Et à son grand étonnement, le centurion lui répond ces mots que nous répétons à chaque messe. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Jésus est émerveillé. Il dit que même en Israël, il n'a rencontré personne ayant une telle foi. Il se retourne vers le centurion et lui dit « Va, rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à ce moment-là, son serviteur est guéri. C'est le texte avec lequel Jeanne-François est en train de prier. La description continue. Elle imaginait la scène en grand détail. Jésus, les disciples autour de lui, la foule alors que Jésus entre dans la ville, et maintenant le centurion, debout au premier plan, devant eux. Ensuite, elle écoutait son acte de foi. Elle faisait ainsi apparaître la toile de fond de sa prière. Et c'est exactement ce que saint Ignace veut que nous voyons. Une scène, une toile de fond à la prière. Plusieurs semaines plus tard, elle avait simplement à se remémorer la scène et à dire « Seigneur, je ne suis pas digne ». Et toute son expérience de prière lui revenait immédiatement à l'esprit. Plus tard, elle réalisa qu'elle avait juste à dire « Seigneur » et elle se retrouvait en prière. À la fin, elle n'avait même pas à dire un mot, seulement à laisser la scène la calmer et elle devenait le centurion. C'est très beau, la prière devient de plus en plus profonde, jusqu'à ce que le sentiment de confiance et de foi en Jésus qui avait empli le cœur du centurion devienne sien. Elle devient le centurion. Ce qui est remarquable également, c'est qu'elle réalise que le fait d'avoir pris le temps d'établir la scène en détail lui permet de faire remonter la prière d'autant plus facilement, même beaucoup plus tard, ce qui est un autre avantage de procéder comme ça. Au début de la quatrième section du catéchisme de l'Église catholique, qui traite de la prière, la toute première chose qui est dite est que la prière est un don de Dieu. Ce que j'espère dans ces 20 minutes que j'ai réservées pour ma prière ne viendra pas d'une technique particulière ou d'une aptitude personnelle. La prière est toujours une grâce, toujours un don. C'est pour ça qu'après avoir imaginé la toile de fond et juste avant d'entrer dans la méditation ou la contemplation, nous demandons la grâce que nous recherchons dans la prière. Parfois, la grâce peut faire référence à quelque chose dans le passage de la parole. Je vais prier avec le passage de la tempête apaisée et il se peut que je sache que je veux demander au Seigneur une foi plus grande dans la tempête que je traverse en ce moment dans ma vie. Ou ça peut être simplement quelque chose que je porte dans mon cœur aujourd'hui, des besoins de toutes sortes que je veux présenter au Seigneur. Et je demande cette grâce au Seigneur au début de ma prière. Ça peut être aussi simple que de demander au Seigneur d'être capable de prier et de recevoir des fruits de ma prière. Alors, pour récapituler ce que nous venons de dire sur la manière de commencer la prière. Dans le temps qu'il faut pour réciter un Notre Père, je prends conscience de l'amour avec lequel le Seigneur me regarde et ma prière devient relation. Je relis le passage des Écritures, je me place dans la scène en imagination, j'élève mon cœur pour demander la grâce que je cherche. C'est très simple. Faire ces étapes prend 2 à 3 minutes. C'est un peu difficile de donner une durée précise, mais c'est très court. Et pour revenir à l'analogie que nous avons utilisée plus tôt, des deux amis qui se rencontrent pour un café, ces premiers instants où ils entrent, leurs regards se croisent, le contact s'établit, ils s'installent physiquement, ces premiers moments préparent d'une manière qui correspond aux besoins naturels de notre cœur, à une communication plus profonde. Si nous prenons le temps de ces courtes étapes préparatoires, nous allons découvrir que notre cœur glisse beaucoup plus facilement dans la prière. Nous avons dit l'autre fois qu'il nous arrive souvent, même si nous voulons prier, même si nous aimons prier, de trouver dur de commencer. C'est juste difficile. Et ces étapes simples et efficaces sont les guides que saint Ignace nous donne pour conduire doucement notre cœur dans cet espace où le cœur parle au cœur, au centre de notre prière. Le fait qu'il y ait plusieurs courtes étapes soulève une question inhérente à toute méthode de prière. Est-ce que toutes les étapes sont obligatoires? Si un jour particulier où je veux prier, disons encore une fois avec le passage de la pêche miraculeuse, s'il se trouve que ce qui a précédé le moment que j'ai réservé à ma prière a déjà ouvert mon cœur à la présence du Seigneur et aux détails de la scène, peut-être même que mon cœur est déjà en train de prier les mots de Pierre « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur » et la réponse pleine de douceur de Jésus « Sois sans crainte ». Si je suis déjà prêt, est-ce que ces étapes préparatoires que saint Ignace m'invite à faire sont indispensables pour vraiment bien disposer mon cœur? Non. Dans un cas comme ça, nous n'avons pas besoin de ces étapes préparatoires parce que notre cœur est déjà totalement engagé. Ce serait l'équivalent de ce jour particulier où les deux amis au café, à cause de ce qui s'est passé avant leur rencontre, une conversation téléphonique ou un événement spécial, sont tout de suite prêts, au moment où ils se voient, à entamer une conversation intime. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Ces jours-là, nous n'avons pas besoin des étapes préparatoires et nous pouvons librement les omettre. Elles sont un tremplin. Elles ne sont pas un carcan rigide. Quand notre cœur est déjà engagé, nous n'en avons plus besoin. Avec l'expérience, nous allons découvrir que certains jours, nous n'en avons pas besoin. Mais ce ne sera pas le cas souvent. Occasionnellement, oui. D'autres fois, une ou deux des étapes sont suffisantes. Mais le plus souvent, nous trouverons que toute cette courte séquence aide vraiment. Élargissons encore notre questionnement sur la prière en général. Disons que je prie aujourd'hui à partir des béatitudes. Et il y en a 8. Et disons que mon cœur se sent profondément attiré, nourri, fructifié par la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et que mon cœur aujourd'hui aspire à cette pauvreté, à cette simplicité de vie qui ouvre au royaume de Dieu. Mais je suis conscient du temps qui passe et des 20 minutes qui sont en train de s'écouler, et il reste 7 autres béatitudes. Est-ce que je ne devrais pas aussi leur consacrer du temps? Ou bien le passage que j'ai retenu aujourd'hui est celui de la guérison de l'aveugle Bartimée. Et je me sens attiré par sa prière. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Surgit de son impuissance alors que Jésus passe devant lui. Et mon cœur est attiré par cette prière. Et il la répète avec conviction. Et j'éprouve un sentiment de bienfait, de guérison qui s'installe dans mon cœur. Une proximité avec le Seigneur. Alors que j'élève mon cœur dans cette prière, pour mes propres besoins. Mais les minutes passent et il y a le reste du passage. Que faire? Il y a une différence entre la méditation et la contemplation d'une part et le rosaire prié en groupe, par exemple, ou la messe, quand le groupe prend un certain rythme et que nous le suivons. Et c'est comme ça que nous participons à la messe ou que nous récitons le rosaire. Mais ici, c'est différent. Il s'agit d'une prière personnelle. Il n'y a pas de rythme de groupe. Les décisions que je prends, que je reste sur un verset particulier ou que je passe à la suite, n'implique que moi. Saint Ignace répond à cette interrogation par une seule phrase dans les exercices spirituels. Et il dit « Là où je trouve ce que je désire, Dieu, espoir, proximité avec le Seigneur, amour du Seigneur, là où je trouve ce que je désire, là je resterai sans anxiété à poursuivre jusqu'à ce que mon cœur soit satisfait. » Répétons ces mots car ils sont vraiment importants pour la méditation ou la contemplation. Là où je trouve ce que je désire, la prière de Bartimée à Jésus, fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Là où je trouve ce que je désire, là je resterai sans anxiété à poursuivre jusqu'à ce que mon cœur soit satisfait. Ça dissipe toute tension dans ce type de prière, toute attente de passer à travers une certaine quantité de versets. Il n'y a qu'un endroit qui compte quand je prie sur un certain passage. Et c'est cet endroit où Dieu s'adresse à mon cœur. Et c'est là que je vais rester, sans anxiété à poursuivre, jusqu'à ce que mon cœur soit satisfait. C'est comme si on était dans une rue où il y a 5 maisons, et qu'on savait que l'ami que l'on cherche est dans une de ces 5 maisons. On frappe à la porte de la première maison, et notre ami s'y trouve. Pourquoi frapper à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième porte? Il n'y a qu'un seul endroit où je dois me trouver, c'est là où est mon ami, pour que nous passions du temps ensemble. Une autre fois, il se pourrait que l'ami soit dans la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième, ou la cinquième maison, et alors je continuerai à frapper jusqu'à ce que je l'ai trouvé. Mais une fois que j'ai trouvé mon ami, il n'y a pas à aller voir ailleurs ce jour-là. Et c'est exactement ce que saint Ignace veut que nous comprenions pour la prière. Vous vous souvenez que dans une conversation précédente, nous parlions de Catherine et de son expérience de guérison au cours de sa prière avec la Passion de Jésus dans l'Évangile de Jean. Elle raconte qu'elle a passé des heures au pied de la croix simplement pour accompagner Jésus, sans être pressée d'avancer, des heures parce qu'elle est en train de faire une retraite de 8 jours et que jour après jour, elle revient en prière au pied de la croix avec Jésus crucifié. Et ces heures de prière transforment sa vie et lui apportent une guérison qu'elle avait cherchée pendant 17 ans. Qu'est-ce qui se serait passé si Catherine avait pensé, et c'est très bizarre d'imaginer ça parce que c'est spirituellement complètement faux, si elle avait pensé « Bon, c'est bien, mais je n'ai pas fini le récit de la Passion de Jean, il faut que j'avance. » Il n'y avait aucun autre endroit où elle aurait dû être, aucun. Simplement là où elle vit l'amour et la bénédiction du Seigneur. Là où je trouve ce que je désire, là je resterai sans anxiété à poursuivre jusqu'à ce que mon cœur soit satisfait. Saint François de Sales, qui a appris beaucoup de Saint Ignace et de ses exercices, utilise une de ces comparaisons simples prises dans la nature. Il dit « Si vous êtes à l'extérieur et que vous regardez une abeille en train de butiner une fleur et d'en extraire le pollen, elle va rester dans cette fleur aussi longtemps qu'elle y trouvera du pollen, pour ensuite décoller vers une autre fleur où elle restera encore une fois aussi longtemps qu'elle y trouvera du pollen. Et ce manège va continuer ainsi. Sur certaines fleurs, elle restera plus longtemps et sur d'autres, moins longtemps. Et c'est ce que nous devrions faire, dit Saint François, dans nos propres méditations ou contemplations. Tant que nous trouvons du fruit, de la clarté, de la lumière, du goût, une énergie nouvelle, une proximité avec le Seigneur, à un point particulier de la prière, comme l'abeille, nous restons là aussi longtemps que notre cœur est nourri par le Seigneur. Dans une de ses formules condensées tirées de son introduction à la vie dévote, un texte merveilleux qui vaut la peine d'être lu, il dit ceci. Imitez l'abeille, restez là où vous trouvez du fruit, mais si vous ne rencontrez rien qui vous attire, après avoir essayé pendant un moment avec attention, continuez au passage suivant, mais procédez tranquillement et simplement, sans précipitation. Donc, toujours avec le passage de la pêche miraculeuse dans Luc chapitre 5, je commence ma contemplation, je suis dans la scène alors que Jésus instruit la foule, et je reste un petit moment là, je suis attentif. Je regarde ce qui se passe, je regarde Jésus qui interagit avec la foule, mais mon cœur n'est pas spécialement touché aujourd'hui par ce qui se passe. Alors, dit Saint François, je me déplace tranquillement au point suivant dans le texte. Quand Jésus se tourne vers Pierre, monte dans son bateau pour continuer son enseignement, et ensuite lui demande d'aller lancer son filet au large. Peut-être qu'à un autre moment où j'ai prié avec ce texte, cette invitation de Jésus, cet appel à aller pêcher au large, m'a touché profondément et j'y ai entendu le Seigneur m'inviter à une nouvelle profondeur dans ma vie spirituelle. Mais aujourd'hui, quand j'entends Jésus dire ces mots à Pierre, j'écoute avec attention, je laisse les mots pénétrer en moi, mais encore une fois, je ne me sens pas particulièrement touchée ou attirée par ce moment dans le passage. Alors, dit Saint François, tranquillement, j'avance à la scène suivante, qui est la pêche miraculeuse elle-même, la capture des poissons avec tout son côté dramatique et l'appel de Pierre. Et aujourd'hui, je m'y attarde un moment, avec attention, en prière. Mais là encore, il ne se passe rien de spécial en moi. Alors, comme l'abeille de Saint François, je continue au point suivant. Quand Pierre dit ces mots à Jésus, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Et que Jésus répond, « Sois sans crainte. » Et cette fois, mon cœur se sent appelé. Alors, dit Saint François, et Saint Ignace aussi, « Je vais passer tout le temps que mon cœur le désire, sans l'anxiété d'avancer, aussi longtemps que mon cœur sera satisfait. » Et c'est de cette façon que nous devons avancer dans la parole. Il y a une description attendrissante de Sainte Catherine de Sienne en prière, écrite par un témoin. Elle ne se préoccupait pas de lire beaucoup, mais au contraire, elle mâchait chacun des mots. Et quand elle en trouvait un qu'elle aimait particulièrement, elle s'arrêtait aussi longtemps que son cœur s'en sentait comblé, à paître. C'est beau, c'est une intuition parfaite des saints en prière. Quand elle en trouvait un qu'elle aimait particulièrement, elle s'arrêtait aussi longtemps que son cœur s'en sentait comblé, à paître, dans le pâturage du Seigneur. C'est exactement ce que Saint Ignace veut que nous comprenions. Le père Gallagher se souvient de ce qu'une femme lui a raconté, alors qu'elle priait à partir de la Passion de Jésus pendant plusieurs jours. Et un peu comme Catherine, elle est restée au pied de la croix pendant 3 heures le Vendredi Saint. Et pendant qu'elle priait, en contemplation, elle s'est retrouvée pratiquement seule avec le Seigneur Jésus. Tous les sons avaient disparu. Elle était devenue de moins en moins consciente des autres et de la foule. Il ne restait qu'elle, debout au pied de la croix de Jésus. tout était devenu silence, à l'exception d'un seul petit bruit. Elle entendait le bruit feutré des gouttes de sang qui tombaient du côté de Jésus, touchaient le sol et y pénétraient. C'était tout. Et à chaque fois qu'elle entendait ce petit bruit, il lui disait qu'elle était infiniment aimée. Et elle est restée plusieurs jours dans ces temps de prière, à ne rien faire d'autre que d'être avec le Seigneur et d'écouter ce léger bruit. On parle ici d'une expérience sacrée qu'il est difficile de partager. Mais vous voyez que cette femme, qui ne ressent aucune pression d'avancer dans le récit tant que son cœur est comblé, reste pendant des jours là où elle est attirée, simplement à écouter ce son feutré qui lui dit combien elle est profondément aimée. Vous pouvez presque sentir comment son cœur devient de plus en plus proche du Seigneur et comment le lien d'amour qui les unit se resserre. Voyez-vous, avec ces exemples, comment, quand nous prions avec notre cœur, c'est le cœur qui mène et non plus la tête. Ce n'est plus comme quand on est étudiant. Je dois arriver à cela, je dois étudier toute cette quantité de matière. On est aux antipodes de ça. C'est ce qui arrive dans n'importe quelle communication intime. Si on revient encore à l'analogie des deux amis au café, leur échange va probablement débuter avec un certain contenu, une situation de vie qu'ils partagent, ou une situation professionnelle sur laquelle ils travaillent ensemble, ou bien quelque chose de familial. Mais au fur et à mesure que la conversation progresse et s'intensifie, elle arrive à un point où les mots deviennent moins importants presque. Ils savent tous les deux que c'est profondément bon, que leur échange s'est déplacé à un autre niveau, celui du cœur. Cela nous fait penser à John Henry Newman et à sa célèbre définition de la prière, un cœur qui parle à un cœur. Nous commençons la prière avec l'imagination ou par la réflexion, mais elle se simplifie, s'approfondit jusqu'à atteindre un point où le cœur rencontre le cœur. Et c'est là que la prière atteint son point culminant. Et le conseil de Saint Ignace est que quand nous avons atteint ce point, nous laissions tomber tout sentiment d'urgence, toute impression de devoir être ailleurs, d'avancer, jusqu'à ce que notre cœur soit complètement comblé. Quand nous faisons cela, notre vie spirituelle évolue énormément. Et c'est pour cette raison que nous avons passé autant de temps sur ce conseil de Saint Ignace. Parce qu'il nous libère, il rend notre cœur libre de se tenir avec Dieu. Vous écoutiez Isabelle Rebelle, qui avait le plaisir de partager avec vous, qui parlez français, le riche enseignement du père Timothy Gallagher sur la spiritualité ignatienne. Pour retrouver tous les entretiens originaux en anglais, rendez-vous sur le site www.discerninghearts.com.